Eh bien, on se retrouve pour la dernière conférence de cette journée, un peu le clou du spectacle, j'ai envie de dire, parce que on va vous retracer l'histoire de la mode du sportswear au streetwear. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir Madame Guénolé-Miret, qui est enseignante, chercheuse en histoire de la mode et du costume à l'École des arts décoratifs de Paris. Alors c'est une histoire que vous allez nous raconter, à la fois j'imagine comment les cultures urbaines, les sports ont alimenté, ont été aussi des créateurs de mode, des précurseurs dans la mode, et à la fois comment peut-être la mode s'est inspirée aussi de ces codes, du sportswear. Donc, et puis il y aura comme tout à l'heure un moment d'échange, je pense que vous aurez des questions nombreuses à poser. Donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien tous. Alors, en fait, la question à laquelle on va répondre là tout de suite, c'est pourquoi est-ce que on est aussi nombreux à porter des baskets alors que je ne pense pas que vous allez courir un footing les uns ou les autres. Je n'ai pas montré vos pieds qui portent des baskets. Il y en a quand même pas mal qui s'élèvent, sans compter les hoodies avec les capuches, les sweatshirts, etc., etc. Donc, quand je fais ce cours aux arts des cours, en général, je demande à tout le monde de monter debout sur les tables pour voir les baskets. Et en règle générale, effectivement, les personnes qui portent des baskets sont plus nombreuses. Bon, c'est pas mon cas, donc je vais faire exception à la règle. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, en fait, comment se fait-il que des vêtements de sport puissent être portés dans une circonstance qui ne soit pas celle du sport? Encore une fois, hein, on ne va pas aller courir un footing, faire un footing, ou bien aller transpirer dans une salle de sport. On est en cours, on est dans une journée de colloques et de conférences. Et pourtant, on a adopté finalement un certain nombre de vêtements de sport au quotidien dans une circonstance citadine. Et quand je dis « on », c'est presque tout le monde, de 7 à 77 ans. Hein, je pense que vos grands-mères, ma mère, portent des baskets, des jeans, même des sweatshirts le week-end et peut-être même tous les jours. Donc ce glissement, encore une fois, d'un vestiaire sportif, qu'on va peut-être aussi élargir à celui des vêtements de travail, et également à ceux de l'uniforme militaire qui vont aussi beaucoup investir le registre de ce qu'on appelle le streetwear, eh bien tout ceci aujourd'hui fait partie de nos quotidiens, de nos garde-robes. Je disais de 7 à 77 ans, on pourrait peut-être aller même avant et après, et puis aussi hommes ou femmes, hein, nous portons tous et toutes des vêtements de sport en dehors des circonstances de la pratique d'un sport. Et comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord aller jeter un petit coup d'œil outre-Atlantique, aux États-Unis, là où émerge véritablement ce qu'on appelle le streetwear. Mais avant de parler de streetwear, je pense qu'il est quand même opportun de rester un tout petit peu en Europe et d'observer ce qu'est le sportswear. Et on va définir ces deux mots pour après élargir le sujet, plus tardivement, vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanwear, puisque l'urbanwear va inclure finalement tous ces vêtements mythiques que nous portons. Et également va complètement adouber, séduire, fasciner les podiums, même de haute couture, puisqu'il n'y a pas une griffe de haute couture aujourd'hui, une marque de prêt-à-porter de luxe, qui ne signe pas des sneakers à 3 millions de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas 3 millions de dollars, mais pour lesquels on va effectivement faire plein d'économies, qu'on va inscrire sur sa liste de Noël, etc. etc. Donc, ces produits qui sont devenus des produits de luxe, qui étaient finalement des vêtements pour la pratique d'un sport, bon, on va les détailler assez rapidement, bien sûr. Vous êtes bien sûr invités à intervenir à tout moment pour donner vos commentaires, réagir, bien évidemment. Dans un premier temps, on va justement mettre en regard le sportswear et le streetwear. C'est une longue introduction qui vise à bien comprendre ce qu'est le sportswear et ce que va devenir le streetwear, précisément aux États-Unis cette fois-ci. Le sportswear, finalement, s'inscrit dans un art de vivre. Le sportswear, vous avez ici, alors il y a une petite faute sur le slide, c'est 1933. Un homme, somme toute, relativement élégant, hein. On parle de sportswear, ah bon, il porte quand même un pantalon de tailleur, de costume, mais un pullover, un cardigan, ce qu'on appellerait un chandail encore à l'époque, dans une attitude finalement qui est plus celle de la villégiature, très oisive, pas du tout formelle, comme on pourrait l'avoir dans les années 30. Et puis, à côté, vous avez reconnu le rappeur Jay-Z en pantalon Carpenter. Hein, donc là, on est dans le registre du workwear. On soupçonne des yellow boots de Timberland, également registre du workwear. Et puis, le t-shirt, la star absolue du streetwear. Ce t-shirt qui va supplanter, véritablement remplacer la chemise des cols blancs, des cols bleus, peu importe laquelle, peu importe dans quel registre. Le t-shirt, qui est un vêtement d'origine militaire, va lui venir complètement perturber cette histoire. Et on va voir comment. Alors, je vous le disais, l'identité du sportswear, c'est une allure informelle, casual, qui va déjà piocher dans le registre sportif. Quel vêtement ? La culotte de golf. La culotte de golf que vous découvrez ici, qu'on appelle aux États-Unis les plus 4, c'est-à-dire 4 pouces en termes de dimension, 4 pouces en dessous du genou. Alors, la culotte pour pratiquer le golf, on pense bien sûr à Tintin. Une attitude, Tintin est un jeune reporter, il va d'emblée adopter une attitude beaucoup plus nonchalante, moins formelle. Hein, aux États-Unis, on parle de formal dress, hein, qui va requérir un certain nombre de vêtements très guindés, très dressy, habillés, donc pour le jour comme pour le soir, on pense au smoking bien sûr pour le soir. Une allure informelle, un style décontracté, et pourtant on a un roi, enfin un futur roi qui n'a pas été roi, mais un roi en puissance, qui est donc ici sur la droite de ce slide. Et donc, vous avez à nouveau cette culotte de golf avec un cardigan. On est dans le registre de la maille. Qui dit maille, dit confort, mais somme toute, quand même, chemise et cravate ici. Hein, donc, des vêtements de sport. On pourrait aussi citer, bien sûr, le blazer et le pantalon du tennisman. Vous avez peut-être reconnu René Lacoste. René Lacoste, sur la gauche de ce slide, qui va logotyper ses vêtements, sa marque de vêtements. Vous savez qu'il était surnommé le crocodile, hein, il lâchait aucune balle. D'où ce logotype oversize, ça fait penser bien sûr à Ralph Lauren, qui n'a peut-être rien inventé. Ce logotype qui est visible. La marque Lacoste est la première à avoir indiqué de manière visible la griffe, la marque, donc sur la poche poitrine de la veste ici. Hein, donc cette histoire de sportswear qui démarre, et bientôt celle du streetwear, c'est aussi une histoire de marque. Et de marque absolument ancestrale. Hein, donc la plupart des marques que je vais citer, que vous connaissez par cœur, les Nike, etc., sont des marques qui ont été créées il y a très très longtemps, au XXe siècle, au siècle précédent. Hein, donc des marques ancestrales, pour la plupart américaines, on va y venir. Donc à l'origine, le sportswear est masculin. C'est véritablement une allure nonchalante, informelle, mais dans un registre de la haute société, dans le registre de la haute société, qui, je le répète, vient puiser dans le registre de certains sports, des sports anglais très très élégants, qui disent sports anglais, blazers, etc. Et effectivement, sur le créneau des loisirs et également de la villégiature. Et très vite, la mode féminine va s'emparer de ce mot sport, sportswear. Et on va avoir ce qu'on va appeler des tailleurs sport. C'est ainsi qu'on les indique et qu'on les définie dans la presse de mode à l'époque. Et je ne vous apprends rien, on a une certaine couturière qui s'appelle Gabrielle Chanel dans les années 30, qui a un succès absolument fou, hein, grâce à plein de choses, son parfum entre autres, mais aussi son allure très confortable de femme moderne qui va elle-même aussi aller observer ce qui se passe dans la garde-robe de ces messieurs, aller piocher le jersey, la maille jersey qui sert donc à fabriquer nos fameux t-shirts, et elle va justement observer comment on peut finalement vivre de manière beaucoup plus confortable en portant ses vêtements en particulier. Donc cette idée de sportswear va aussi s'immiscer petit à petit dans le vestiaire féminin avec ce qu'on appelle le tailleur sport. Ou égal. Alors regardez ici, celui-ci, il est quand même assez emblématique et peut-être même un tout petit peu, il va annoncer ce qui va se passer en 1948, c'est-à-dire la création de Adidas, dont je vais vous raconter l'histoire dans quelques instants. J'avais retrouvé ce modèle d'une certaine Hélène Huber, absolument inconnue au bataillon dans l'histoire de la couture, et pourtant avec ce système de bandes prémonitoires pour la marque Adidas. L'histoire ne dit pas si Hélène Huber a inspiré ou pas Adolf Dassler, le fondateur de la marque Adidas, mais en tout cas, le clin d'œil, encore une fois, à la couture parisienne était intéressant. Alors, on avance et effectivement, on continue à avoir plein de tailleurs de sport et des robes de sport. Parce qu'à l'époque, on pratique le tennis en robe, le lawn tennis, tennis sur gazon. On le pratique en robe de sport. Il faut attendre, bien sûr, l'intervention de Jean Patou pour qu'il nous crée cette petite robe plissée en jersey de soie, avec le petit cardigan qui va avec le premier uniforme porté par Suzanne Lenglen, hein, donc cette championne de tennis qui a donné son nom au cours de Roland-Garros. Donc, cette robe dite de sport complète justement une allure très sportswear, à tel point que certains couturiers vont même ouvrir dans leur maison de haute couture le coin des sports, c'est le cas de Jean Patou, hein, pour justement commencer à fournir eh bien, ces dames qui veulent avoir une attitude plus confortable. Donc, pour bien repositionner notre histoire à propos du sportswear, on a bien compris que la quête du confort, c'était vraiment essentiel dans le sportswear, mais ça s'inscrivait vraiment dans un art de vivre très élitiste, oisif, aristocratique, hein, donc inspiré par les sports britanniques. Alors que le streetwear, lui, va s'inscrire dans une histoire outre-Atlantique et dans la pratique de sport, mais aussi dans, au cœur même de la philosophie hip-hop. Il y a deux creusets d'émergence du streetwear aux États-Unis. C'est la côte ouest des États-Unis, avec l'émergence d'un sport qui existe depuis les années 50, ce sont les skaters, les skateboarders, ceux qui pratiquent donc la glisse sur ces fameuses planches à roulettes, qui sont finalement jusqu'à présent des planches qui sont fabriquées par les jeunes eux-mêmes. Hein, les toutes premières planches à avoir été commercialisées, le roller derby, je crois, c'est uniquement dans les années 50. Il faut attendre un petit peu pour que ce sport se professionnalise, contrairement au baseball qu'on pratique largement depuis le 19e siècle. Ce que je vous dis a une importance, parce que la plupart des pratiquants de skateurs vont devenir eux-mêmes des créateurs de marques, et pas seulement de sneakers. Et ça, c'est super intéressant. Alors que dans d'autres sports aux États-Unis plus institutionnels, comme le baseball ou le basketball, en général, on a des équipementiers qui viennent effectivement fournir les sportifs. Et donc, effectivement, on a peut-être un petit peu moins d'intervention de la part des sportifs en termes de création de marques. Donc, le streetwear va se développer grâce, encore une fois, au skateboard et puis aussi, bien sûr, grâce à la philosophie hip-hop, que j'appelle philosophie parce que ça dépasse même le stade de la musique. La première expression du hip-hop, c'est la danse. Hip-hop, ça veut dire danser de manière cool, hein, donc en colloquial American, donc en argot américain. Et on a donc ces fameux breakdancers qui sont vraiment une institution au tournant des années 80 à New York. Certains, les Break City Dancers sont devenus très, très, très célèbres et ont même performé en Europe dans les années 80. On a bien sûr les rappeurs. Et puis, bien sûr, aussi les graffeurs qui vont eux-mêmes aussi faire partie de cette philosophie et apporter la version, l'expression plastique autour de la philosophie donc hip-hop. Alors, on démarre et on va démarrer dans un premier temps sur la côte californienne. Hein, donc, pour vraiment voir l'émergence du streetwear, avec quels acteurs et quels vêtements le streetwear va-t-il adouber? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'invention. Tous ces vêtements existaient déjà, soit dans le registre militaire, soit dans le registre sportif, soit dans le registre des vêtements de travail. Hein, donc on vient piocher ce qui nous sert, ce qui nous convient, encore une fois, par rapport à des considérations très techniques et très pratico-pratiques. Ça, c'est aussi super important. Donc le skateboard, voilà, j'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est qu'un skate, une planche à roulettes. C'est une véritable passion aux États-Unis. En général, les skateboarders sont des surfeurs. Et donc, viennent extrapoler tout simplement la soif de la glisse sur les trottoirs ou alors dans les piscines vidées de leur eau. On n'a pas encore de skatepark à l'époque, donc il faut effectivement utiliser toutes les courbes possibles pour venir pratiquer son sport et ses figures extrêmement acrobatiques. Alors, il y a un endroit en particulier où vont émerger les premiers, enfin en tout cas vont s'exprimer les premiers skateboarders professionnels qui s'appellent Dogtown, qui est une banlieue de Los Angeles. Et donc les tout premiers skateurs professionnels étaient des surfeurs et étaient encore une fois des protégés d'un petit magasin de plage où on vend des planches de surf, où on vend des planches à roulettes, des skates, qui s'appelle le Zephyr Shop. Et le manager de ce magasin va accompagner ces jeunes, une bande de jeunes, dont vous allez découvrir le visage de deux ou trois d'entre eux, qui sont que des garçons, si ce n'est une fille, Peggy Oki, et va les aider à devenir donc professionnels et à, d'une certaine façon, donner un rayonnement absolument national donc à ce sport qui va, par la suite, donner lieu à la création des fameux skateparks. Vous découvrez le visage ici de deux Z-Boys, ainsi qu'on les a appelés, Stacy Peralta et Tony Alva. Et ils ont vraiment une incidence et une importance dans notre histoire parce qu'ils vont avoir nouer des liens de collaboration avec des marques. Je pense que vous savez tous ce que c'est que des Vans. Peut-être même vous en avez. On en voit tout le temps dans le métro, les fameux slip-on. Hein. Elles sont aussi copiées dans les prisons parce qu'il ne faut pas de lacets dans les prisons. Donc ces fameuses Vans qui auront été réinterprétées de Vanessa Bruno à Jeremy Scott en passant par toutes les marques possibles et imaginables. Eh bien, les Z-Boys vont collaborer avec le fondateur de Vans, Paul Van Doren, pour améliorer l'adhérence des semelles en caoutchouc naturel. Donc on va y revenir dans un instant, mais ça a son importance. Donc vous voyez leur look, c'est plutôt des looks de surfeurs, t-shirts, la plupart d'entre eux vont aussi imprimer des t-shirts dans leur garage et vendre des t-shirts donc, sur le bord de la plage. Donc qu'est-ce que les skateurs vont porter? Essentiellement des jeans, essentiellement des t-shirts, essentiellement des hoodies aussi, également, et ces fameuses baskets qui sont tellement importantes. Encore une fois, alors quand je dis basket, je devrais dire sneaker, le terme américain qui va englober, peu importe que ce soit basket ou tennis, en tout cas, toutes les formes de chaussures à tige basse ou haute hein, qui vont justement permettre cette adhérence grâce à la semelle en caoutchouc naturel. Alors, on va détailler ces vêtements très rapidement. Là, vous avez les fameuses chemises de flanelle écossaise. Vous savez, on les appelle des chemises de bûcheron. Les filles adorent emprunter celles de leurs petits copains le week-end et pas seulement. Je suis sûre que vous en avez toutes, mesdemoiselles, presque plus que les garçons. Good enough, pourquoi? On reviendra sur le nom de cette marque. Cherchez l'erreur, c'est une marque japonaise. On va y revenir à l'issue de cette présentation. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que la première marque à créer ces chemises en flanelle écossaise, qui sont des chemises de bûcheron, qui dit bûcheron, dit pour travailleur, encore une fois, eh bien, c'est la marque Pendleton. Et la marque Pendleton, elle a été créée dans les années 1820, je crois que c'est 1928. Vous rendez compte, c'est quand même une marque très, très ancienne. Ces chemises en flanelle étaient portées aussi bien par les cowboys que effectivement les bûcherons. Donc, chemise très robuste, chaude, chemise de travail. Et pourquoi elle arrive dans la sphère streetwear? Uniquement, vous savez, c'est comme les Uggs, les chaussures de Cro-Magnon, si vous voyez ce que je veux dire, hein, qui est donc sur des chaussures australiennes que portent les surfeurs pour se réchauffer les pieds. On a froid après une séance de surf, du moins je suppose. Eh bien, de la même façon, on se réchauffe avec la Pendleton, à tel point que les surfeurs aux États-Unis, si vous voyagez en Californie, vous verrez que les surfeurs, on les appelle des Pendleton, parce qu'ils ont tous cette chemise. Vous voyez comment, finalement, vous portez des vêtements et qui ont une histoire assez riche, en tout cas, qui prend racine dans cette culture américaine. Alors, le t-shirt, que dire? Le t-shirt, chemise en forme de T, OK? Oui, ça, je crois que j'ai tout dit, mais pas seulement. Parce que ce qui est super intéressant du t-shirt, c'est que, OK, c'est une chemise, mais en maille jersey. Qui dit maille jersey, dit élasticité, donc fatalement confort. C'est une chemise qui n'est pas ouverte sur le devant, qui s'enfile. Cette chemise, on la trouve dans l'armée américaine, dans les armées, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va imprimer sur la chemise le numéro de l'unité ou du corps des armées auxquelles on appartient. Cette chemise, en forme de T, arrive au moment on est démobilisé, on va retourner dans les high schools, on va retourner dans les universités, on porte sa chemise militaire, les universités et les high schools vont dire, nous aussi, tiens, on va imprimer le nom de nos entités sur nos t-shirts, et c'est ainsi que les t-shirts à motifs vont voir le jour. Et très vite, bien sûr, la mode, les créatifs vont s'emparer du t-shirt à motifs pour délivrer des messages. C'est le vêtement qui délivre un message par essence politiquement correct ou politiquement incorrect. On a à l'esprit un certain nombre de t-shirts de plein de marques qui sont effectivement assez provocateurs. Donc, je pourrais citer des milliers de marques de t-shirts, mais il me vient à l'esprit Stussy en premier. Stussy, Sean Stacy, qui était un surfeur et qui, en plus de vendre les planches de surf qu'il fabriquait lui-même, eh bien, il imprimait ses t-shirts et il les vendait au bord de la plage. Et vous connaissez peut-être la marque Stacy, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui est caractérisée par cette signature façon graffeur et qui, voilà, aujourd'hui, un t-shirt Stacy des années 80, c'est collector, ça se vend des centaines, voire des milliers d'euros sur eBay. Donc, on a vraiment des marques emblématiques qui se fondent et qui se créent dans des garages, qui sont imprimés dans les garages et vendus sur le bord de la plage, donc aux États-Unis, donc t-shirts à motif. Alors qu'à l'origine, je vous le rappelle, ces t-shirts, c'est fait pour transpirer, c'est fait, encore une fois, pour avoir des activités bon, militaires, mais c'est aussi une forme de sport. Donc, les t-shirts, ça permet de personnaliser son look et son allure. Et ça, le mot personnaliser, il est fondamental, je devrais dire en anglais, customiser. Hein. Il y a vraiment cette idée de... On va piocher des vêtements qui appartiennent à tout le monde, t-shirt, jean, carpenter, basket. Mais l'idée, c'est d'avoir l'air unique au travers de son look. Et ça, c'est déjà en gemme dans la mode hip-hop, qu'on va découvrir dans un instant. Donc, ces vêtements, qui dit personnaliser, eh bien dire tout simplement imprimer un message. Et on avait d'ores et déjà ce principe dans l'histoire de la mode avec les tabards. Les tabards, vous savez, c'était en fait comme des... grands panneaux de tissu qui étaient portés par-dessus les armures, parce que quand on se battait, allez savoir, je me bats contre qui, le duc de machin ou le prince de machin, on ne peut pas le savoir quand on porte tous la même armure. Donc l'idée, c'était d'indiquer avec son vêtement, le tabard, à quelle armée on appartenait. Bah, le t-shirt, c'est pareil. On va indiquer à quel poste on appartient. Le poste, vous connaissez peut-être ce mot. Dans le langage américain un peu colloquial, c'est plutôt... l'unité de l'armée auquel on appartient, et ça va très vite devenir son gang, tout simplement, son groupe de jeunes, le groupe de jeunes auquel avec lequel on vit, hein, parce que le gang a quand même une connotation assez négative. Donc il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'information. Très vite, le t-shirt devient complètement emblématique de la culture skate, et qui dit culture skate dit très vite culture du skateboard, voilà. Hein, et donc, on a tous encore des t-shirts, bien sûr, dans son vestiaire, des t-shirts imprimés, certainement, avec des messages encore plus. Hein, donc, ça devient vraiment institutionnel au cœur de, du streetwear. Je vous parlais des Pendleton, la voici, portée cette fois-ci par un garçon vaché. Je le répète, Pendleton, marque créée en 1928. Hein, autant dire qu'on est dans l'entre-deux-guerres. On a peine à imaginer que cette histoire de marque commence aussitôt. Il y a aussi un autre vêtement qui est assez intéressant et que vous connaissez bien si vous pensez à la marque Gap, c'est le chino. Hein, le chino, qui est donc ce pantalon en sergé de coton, couleur beige, couleur de la poussière. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, c'est une couleur qui avait été adoptée par les armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale pour rompre justement avec le blanc trop salissant. Et donc, cette couleur avait été adoubée. Et pourquoi on l'appelle le chino ? Bah, tout simplement, c'est parce que déjà à l'époque, on faisait faire les uniformes en Chine parce que ça coûtait moins cher. Déjà, les Américains pratiquaient cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va garder le mot chino pour évoquer ce pantalon à pinces que vous connaissez bien aussi et qui est aussi devenu emblématique de la marque Gap, qui est fondée dans les années 60. Alors, pourquoi, bien sûr, il arrive dans l'uniforme de la jeunesse ? Parce que les Américains, les jeunes GIs, reviennent effectivement et reprennent leurs études. Et donc, très vite, ce sont des vêtements adoubés par la jeunesse. Alors, un mot sur les couvre-chefs. Et ils sont très, très nombreux dans cette histoire, parce qu'il n'y a pas seulement les casquettes, il y a aussi les bob kangou qu'on va voir dans la culture hip-hop. Et puis, bien sûr, la capuche de son hoodie. Mais cette casquette New Era qui a la particularité d'être composée de 6 quartiers avec un bouton sur le dessus de la tête pour la calotte et qui a la particularité aussi d'avoir une visière très 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 droite. Ça, c'est un code distinctif, encore une fois, du hip-hop qu'on n'observe pas nécessairement dans le sport. Par exemple, la casquette du baseballeur va être courbée, la casquette de l'aviateur va être courbée, la visière, pardon, hein, à cause des écouteurs pour l'aviateur et puis aussi à cause de tous les différents codes et façons de plier sa casquette aussi quand on est un baseballeur. Mais dans la culture street et dans la culture du hip-hop, on va garder cette visière très, très plane. Ça, ça reste un code aussi distinctif. Alors, il existe aussi plein de casquettes, de marques de casquettes différentes. La New Era est devenue la casquette officielle des baseballers très tôt dans cette histoire. Donc, encore une fois, toujours dans cette idée de devenir l'équipementier d'un sport emblématique. Alors, voilà. Quelques mots sur les fameux sneakers que vous avez bien voulu montrer, les vôtres, tout à l'heure. Les sneakers, effectivement, aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer le nombre de marques qui existent. Je ne sais pas, vous avez une idée, vous ? Ça se compte en dizaines, en centaines de marques ? Plus, hein, on est d'accord. Hein, moi, je tablais sur plus de 100. Le nombre de marques est inimaginable. Il faut bien se dire que dans les années 60, aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. D'accord ? On va avoir, je vais juste reprendre mes notes deux secondes pour ne pas dire de sottises, parce que c'est quand même important. On est en 1966 quand Paul Van Doren va créer la marque Vans. Et avant 60, on n'a que trois marques donc de chaussures avec des semelles en caoutchouc naturel, qui sont Keds, Converse et Randy's. Miles Converse a créé sa marque, on y vient dans un instant, en 1908. C'est vachement tôt, vous vous rendez compte, vos Converse, comme elles sont vieilles. 1908, c'est la marque la plus ancienne de sneakers de cette histoire. Hein, donc que trois marques existantes avant les années 60. Et ça va se démultiplier considérablement à partir des années 90, bien sûr, avec tous les pratiquants de skate qui vont justement, pour certains, devenir eux-mêmes créateurs de marques. On va en citer un ou deux. Donc, les Vans sont particulièrement adoubés par les skateboarders. Pourquoi ? Parce que la semelle est particulièrement adhérente. Chaque type de sport va adouber une marque en particulier. Et on verra d'ailleurs que même les breakdancers vont aussi adouber les Adidas en particulier. D'accord ? Donc il y a vraiment, encore une fois, un goût, un choix très très précis de la part des différentes marques. Et en ce qui concerne les skateurs, ce sera avant tout les Vans. Et on observe effectivement ces collaborations entre les Z-Boys, donc les tout premiers pratiquants de skate professionnels, avec Paul Van Doren, donc marque créée en 1966. Miles Converse et sa fameuse Chuck Taylor All-Star. Ah, celle-ci, on l'adore. Les tout petits la portent, les moyens petits la portent, etc. Et on va jusqu'à au-delà de 77 ans, on l'a compris. Alors, l'histoire de la All-Star, en fait, signée par Chuck Taylor. Chuck Taylor, qui était donc un très, très grand joueur de basket. En fait, très étonnamment, il ne l'a jamais portée pour jouer au basket. Il était retraité quand Miles Converse est venu le voir et lui dire, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez la promotion de mes baskets. Et donc, il va devenir une sorte de commercial de luxe, parcourir tous les États-Unis. Et comme il est tellement populaire, il va aller dans les high schools et les universités. Et de là, vendre véritablement la Converse, qui va aussi devenir très vite une chaussure emblématique de la musique, de la scène rock et également. Hein, donc sans compter bien sûr la scène hip-hop. Donc signé par Chuck Taylor en 1923, alors qu'elle aura été créée en 1917. Donc c'est vraiment des modèles extrêmement anciens. Et puis naturellement, elles vont aussi être très très adoubées. Alors ok par les joueurs de basket, mais aussi par les skateurs. Pourquoi ? À cause de la tige, grâce à la tige haute qui protège encore une fois la cheville quand on pratique le skate, la cheville est extrêmement mise à mal. Donc on a effectivement à l'idée tous ces best-sellers, tous ces différents types de semelles qu'on porte encore aujourd'hui, les toutes simples jusqu'aux plus sophistiquées et tout à fait icônes du streetwear. Un mot sur Nike et Adidas, alors deux marques également fétiches et de cette histoire et emblématiques de cette histoire. Moi, j'adore l'histoire de la marque Adidas parce qu'en fait, Adolf et Rudolf Dassler étaient deux frères et leurs parents avaient une entreprise qui créer pas seulement des semelles en caoutchouc naturel, mais tous des produits dérivés à base de caoutchouc naturel. Et ils décident de créer une marque de sneakers. On est en 1948, mais problème, ils aiment la même femme. Et donc, ils se brouillent. Et à cause de cela, eh bien, on aura deux marques et non pas une seule. Adidas, puisque Adolf était surnommé Adi, et Puma. effectivement, Puma. Puma, qui sera fondée par Rudolf Dassler. Donc, grâce à cette femme, ou à cause de cette femme, je ne sais pas comment dire, on a deux marques au lieu d'une. L'histoire, voilà, commence à être féconde pour nos fameux sneakers. Observez, regardez les lacets de couleur. Vous êtes peut-être un peu jeune pour vous souvenir des fat laces. Les fat laces, c'était côté très, très bombé. Je vois des têtes qui hochent. Mais c'est vrai que c'était, il y a quand même 10 ans, que c'était très à la mode, cette histoire-là. Gardez ces modèles à l'esprit, vous verrez que ce n'est pas du tout une création d'Adidas, les Fat Laces. C'est vraiment une création des jeunes de la rue qui aura été totalement copiée par Adidas. Et malheureusement, les jeunes de la rue n'auront pas vu de royalties hein, par rapport à cette création assez étonnante dont on va trouver l'origine d'ici quelques instants. Donc, Adidas, qui va plutôt fournir tout ce qui est soccer, le football européen ou le tennis. Nike, plutôt le baseball ainsi que le basket. Donc, voilà, chaque marque va devenir l'équipementier fétiche de certains sports qui sont évidemment ultra populaires aux États-Unis, ultra puissants, bien sûr, en termes de contrats. Vous doutez que c'est des milliards de dollars. Un mot sur Nike, qui est donc fondé par Phil Knight. On est en 62. Je m'en souviens toujours parce que c'est l'année de la création de la maison de haute couture Yves Saint Laurent. Donc deux univers opposés, deux empires, l'un de haute couture en 62, Yves Saint Laurent démarre sa maison et puis Phil Knight va créer les fameuses Nike qui n'auront été muni de ce fameux logo swoosh qu'en 1973, et là l'histoire tout le monde la connaît, c'est une stagiaire payée à peine 20 dollars hein, qui aurait donc créé ce fameux logo en forme de virgule et qui elle-même n'en a probablement pas eu beaucoup de retours sur investissement, oserais-je dire. Donc voilà ces histoires de marques très très emblématiques et qui vont être adoubées grâce au sport bien sûr. Et notons également quand même quelques marques fondées DC Shoes, fondées par des fondus de la glisse et des pratiquants de skateboard qui vont aussi devenir des marques extrêmement emblématiques du streetwear. Donc DC Shoes, ici fondée en 1994. Alors, on va quitter la côte ouest des États-Unis, si vous êtes d'accord, et on va arriver cette fois-ci sur la côte est et découvrir une histoire absolument palpitante. Vous connaissez le hip-hop pour la musique, je suppose, pour le rap. Mais en connaissez-vous les origines? Oui, un peu. Un peu, des origines quand même très dramatiques, hein, puisque vous connaissez le fondateur du hip-hop, son nom? Afrika Bambaataa, voilà. Afrika Bambaataa que vous allez découvrir ici, voilà. Qui donc serait peut-être l'équivalent d'un grand frère dans nos banlieues, un homme muni, enfin doté de voilà, beaucoup de valeurs et qui était absolument terrifié à l'idée que cette violence se transforme en bagarre à coups d'armes blanches, à coups d'armes à feu. Il voit son meilleur ami tomber sous les balles de la police et il décide effectivement de créer finalement une sorte de mouvement autour de la performance artistique. On a trois pôles, la danse avec le breakdance, on a également la musique avec le rap, bien sûr. Et on a également les arts plastiques. Alors, tout ne devient pas street art. Hein, mais il y a à boire et à manger. Mais il y a effectivement une expression plastique avec les graffeurs qui vont délivrer des œuvres sur des rames entières de métro, sur des murs complètement inaccessibles, dans des conditions d'insécurité totale par rapport, bien sûr, à l'acrobatie, mais aussi par rapport à la police qui guette. Sauf que on est à la fin des années 70, la guerre anti-gang n'a pas encore commencé, on est à un moment un petit peu pacifié, où finalement l'idée c'est de se dire, je ne suis pas d'accord avec tel gang, tel poste, je vais donc lancer un défi, et au lieu d'aller se batailler et de se violenter, on va se créer des défis artistiques, et c'est le meilleur qui aura gagné. Voilà. Et ça se passe comme ça, c'est l'origine de la philosophie hip-hop, portée justement par Afrika Bambaataa. Et ce qui est très très beau dans cette histoire, c'est que c'est une énergie hyper positive. Hip hop don't stop till you reach the top. Je crois que c'est le style qui suit. C'est le motto de cette histoire. C'est vraiment une volonté de se dire si je suis talentueux, si je suis le meilleur, je vais pouvoir sortir du ghetto. On est dans le Bronx, on est dans les ghettos new-yorkais, on est aussi dans les communautés les minorités raciales américaines. Hein, donc, ce sont des personnes qui n'ont finalement aucune chance, quelque part, de réussir. Or, finalement, la mode hip-hop, c'est une mode qui est comparable, en termes d'allure, à celle des dandys au début du 19e siècle. Pourquoi ? Il n'y a rien de grunge, il n'y a pas de vêtements déchirés, il n'y a pas de style provocateur. On est vraiment dans cette idée que je veux devenir quelqu'un, donc au travers de mon look, je dois être impeccable et je dois être unique. Donc il y a une énergie ultra positive, et on va voir que ces jeunes membres du hip-hop vont adopter un certain nombre de vêtements que les skateurs avaient déjà adoptés, et puis d'autres, et qui vont eux-mêmes personnaliser. On va voir quels sont leurs héros, tous ceux qui vont les inspirer. Alors, regardez toutes ces photos, je les adore, elles ont été prises par Jamel Shahbaz, qui, accompagné de Martha Cooper, qui est une journaliste, a fait tout un reportage ethnographique, finalement, dans les rues du Bronx, dans ces époques-là, et vous allez voir que ces photos sont très, très émouvantes quand on voit toute cette fierté qui se dégage, aussi bien des rappeurs, aussi bien des graffeurs, aussi bien des breakdancers, de tous ces jeunes qui vont pratiquer leur spécialité artistique d'une manière extrême. Alors, je suis allée un petit peu vite ici, le lieu dans lequel va prendre vie le hip-hop, ce sont les fameux block parties. On demande à la police de couper la circulation le vendredi soir pour pouvoir mixer de la musique dans la rue et danser, rapper, graffer, bien sûr. Et tout ceci se passe dans les ghettos, mais très vite, ça va intéresser l'élite new-yorkaise, et certains clubs américains de Manhattan vont accueillir aussi des expressions hip-hop, le Roxy Club en particulier. Alors, quels sont les acteurs du hip-hop ? Ben là, vous les connaissez par cœur, hein, les DJ, bien sûr, qui vient donc mixer la musique avec un certain nombre d'influences, que ce soit le jazz, que ce soit la musique jamaïcaine, aussi des influences en termes langage qui sont liées à l'argot américain. Donc ça, c'est très important, tous ces mots, certains mots que j'ai pu vous citer, le POS ou bien je ne sais plus ce que je vous ai cité tout à l'heure, qui faisait aussi partie donc de cet argot américain, hein, va aussi prendre part à la création du rap. Je suis loin d'être une spécialiste, mais en tout cas, c'est une forme de poésie. L'idée, c'est de transformer les balles de revolver en mots. Les mots peuvent être aussi percutants, mais feront quand même beaucoup moins de dégâts, on s'en doute. Alors, les acteurs du hip-hop, au début, c'est vrai qu'ils n'ont pas de look. On n'est pas au moment du gangsta rap, avec les Dookie Rops, avec tous ces signes extérieurs de richesse. On a vraiment des looks finalement assez sages. Ici, même un cardigan un peu façon papy, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, on a quand même les accessoires absolument essentiels. Le trilby, qui est ce chapeau de jazzman de la Nouvelle-Orléans, avec une passe très, très étroite. Des trilbys, on en porte l'été, hein, on en a tous aussi. Les lunettes noires, ça, c'est vraiment indispensable, parce qu'il y a toujours cette idée, finalement, qu'on est plus ou moins dans l'illégalité, donc il faut masquer son identité. Donc la capuche, la casquette, les lunettes noires, c'est toujours aussi une façon de cacher son identité. Les autres acteurs du hip-hop seront, bien sûr, c'est incroyable, incroyable breakdancers avec les fameux B-Boys, qui est un groupe les plus célèbres. Parfois, ils ont 12, 11 ans, sont vraiment des kids, des très, très jeunes enfants, mais qui vont, encore une fois, performer. Alors, la pratique du breakdance, vous la connaissez sans doute, hein, c'est une danse au sol, toutes les parties du corps, que ce soit la tête, les mains, les pieds, les jambes, le dos. Hein, donc, l'idée, c'est aussi de créer des figures inexistantes, d'être le plus créatif possible, et certains sont juste absolument incroyables. Et regardez, pareil, on va retrouver nos baskets, Adidas, Nike, ce sont des copies. Vous doutez bien que ces jeunes n'ont pas du tout les moyens de s'acheter de ce genre de baskets. Et même la copie, elle va être super chère pour eux. Donc on va vraiment briquer ces baskets avec une brosse à dents et de l'Ajax pour qu'elles soient, comme on dit, alors nous on dit flambant neuf, aux États-Unis on dit fresh out the box, hein, donc qu'elles soient vraiment nickel. Il n'y a pas du tout, on est vraiment très éloigné des punks, très éloigné même des nouveaux romantiques. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... on est impeccable. On est vraiment impeccable. Pas de jeans déchirés, pas d'allure provocatrice, parce qu'on va devenir quelqu'un, parce qu'on peut-être on va sortir du ghetto, parce qu'on veut en tout cas être les meilleurs. Alors, les graffeurs, aussi, malheureusement, beaucoup d'entre eux auront des accidents, sans doute, hein, quand on pratique ce sport, enfin, cette pratique plutôt plastique, dans des conditions aussi dangereuses. Les graffeurs, ils ne vont pas mettre de lunettes noires parce qu'ils graffent la nuit. Ils vont plutôt porter des vêtements ajustés. Les fameuses doudounes sans manches aussi parce que chaudes, parce que c'est la nuit. Et je vous le disais, l'idée, et ce qui est très, très beau, encore une fois, dans ces photos, c'est que le graffeur, la plupart du temps, il va faire une œuvre et puis il va s'en éloigner, puisque l'œuvre, c'est un mur, c'est un métro, c'est une rame de métro. Donc, comment va-t-il pouvoir dire « c'est moi l'auteur » ? Et donc, ils ont toujours un book avec eux pour reproduire l'œuvre et pour pouvoir prouver, parce qu'il y a évidemment des gens qui s'approprient certaines œuvres, et tout ceci crée des bagarres. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est toujours de poser à côté de son œuvre. Il y a des photos qui arrivent un petit peu plus tard, et le book à côté pour dire « voilà, je suis bien l'auteur ». Et là encore, toute la fierté qui transpire de ces photographies, je trouve, est assez étonnante. Quand je dis fierté, c'est aussi toute cette énergie créatrice, à mon sens, qui transpire aussi de ces photos. Voici l'allure type du hip-hop. Jean ajusté, ou alors chino ajusté, ou alors bas de survêtement Adidas. Hein. Et puis, donc, basket, copie en général, et la casquette. Alors, la casquette à l'envers, hein, on a souvent caractériser ça comme bad boy. Moi, je suis désolée, c'était plutôt pour des raisons aérodynamiques, hein, parce que faites du skateboard avec la casquette à l'endroit, la casquette, elle part. Donc, à l'envers, elle reste sur la tête. Hein. Donc, parfois, c'est vrai qu'on a tendance aussi à caractériser de mauvais garçons certaines attitudes hip-hop, alors qu'elles étaient là pour des raisons tout à fait pratico-pratiques. Les membres du hip-hop vont avoir, bien sûr, un certain nombre de héros, ils vont être fans aussi bien de chanteurs de reggae, Bob Marley en tête naturellement, mais aussi du grand frère, du chef de gang qui sort de prison avec des vêtements trop amples, les fameux baggy, les acteurs de films d'arts martiaux aussi qui sont très très plébiscités. Et donc on va imiter, customiser finalement son attitude au travers de tous ces toutes ces inspirations, et notamment les breakdancers vont justement lacer le bas de leur pantalon pour éviter d'être gênés quand ils pratiquent leurs acrobaties. Et voici l'origine des fat laces chez Adidas. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on est dans une période aujourd'hui où on parle d'appropriation culturelle, on pense souvent à l'appropriation liée ou bien aux cultures étrangères. Mais ça se passe aussi, hein, dans, je dirais, les tendances et donc les mouvances et le hip-hop en particulier. Et c'est vrai que ceux qui ont porté des fat laces, peut-être il y a 10 ans, c'est vrai que c'est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, ne savaient peut-être pas que c'était les danseurs de breakdance qui, pour codifier le langage entre eux, c'est-à-dire je porte des lacets bleus, je reste neutre, je ne dis pas que c'est complètement exact le col couleur, mais c'est l'idée, je vais porter des chaussures de couleur contrastées, des lacets contrastés pour dire que je vais lancer tel défi à tel poste, tout ça c'est un code. Et donc ces lacets, on va les découper dans des bandes de t-shirts qui sont évidemment trop gros, et ça fait un gros pataquès sur le dessus de la basket, et ça nous donne les fat laces qui vont être imités par Adidas, et Adidas va, j'imagine, je suppose, faire des fortunes avec. Vous voyez, ça c'est de l'appropriation culturelle, c'est faire du business sur une idée créative dont l'auteur ne trouvera jamais les royalties sur son compte en banque, d'accord ? Donc c'est pas l'objet aujourd'hui de notre débat, pardon, aux organisatrices, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça. On vient pas nécessairement s'inspirer de cultures étrangères, on peut aussi s'inspirer de tendances de la rue. Attention, quand vous êtes très créatif, regardez si les marques ne vous copient pas. Voilà, donc, autres influences, bien sûr, c'est le reggae, Bob Marley en tête. Bob Marley est un fervent défenseur de son équipe de soccer, donc il va porter beaucoup de Adidas. Il va aussi porter la veste M65, qui est une veste genre saharienne portée par les armées américaines. Donc, vêtements fétiches de la sphère street, toujours emblématique cette fois-ci du monde militaire. Et en ce qui concerne l'accessoirisation, quand vous pensez, vous savez, à ces gangsters rappeurs avec toutes les chaînes en or, on oublie que l'origine de ça, c'était la nameplate. Et la nameplate, parce que je ne vais pas dire plaque d'immatriculation en français, ce n'est pas très joli, la nameplate, c'était, non pas son nom, mais dans l'armée, bien sûr, c'était la plaque d'immatriculation, c'est-à-dire quand on était défiguré au sol décédé, eh bien, au moins on savait que le corps avait une identité. Eh bien, la nameplate dans la sphère hip-hop, elle va devenir la signature, son grave personnel ou le nom du poste auquel on appartient, donc de son gang. En particulier, elles ne sont pas du tout en or, elles sont en étain, façonnées avec quelques dollars seulement dans les rues du Bronx. Donc c'est vraiment de la customisation. Et puis, des signes d'appartenance extrêmement forts. Parce que quand les gangsta rappeurs vont s'adouber, vont s'approprier les codes hip-hop, les membres du hip-hop d'origine vont disparaître. Et ça, c'est aussi très, très intéressant, hein, parce qu'encore une fois, c'est une mode assez discrète, finalement, et qui mise tout sur l'élégance. Et j'insiste aussi sur ce thème, et vous verrez à quel point on peut les caractériser d'élégance, ces jeunes hip-hoppers. Donc voici un look, on peut se marrer, c'est sûr, hein, mais un look très, très emblématique du streetwear, t-shirt, short, pour, surtout pour les breakdancers, et puis la nameplate et les casos qui étaient ces lunettes sans correction, juste pour le look, donc portées aussi, et qui était une marque italienne très, très appréciée, copie évidemment. J'avance un petit peu. Le hoodie, qui bien sûr est un vêtement emblématique, très mauvais garçon. Mauvais garçon, alors on connaît toutes les histoires dans les lycées interdits de porter, je pense que vous l'avez peut-être connu ça. Voilà. Ça a commencé très tôt, hein, dans les années 2000. Je crois que c'était une banlieue londonienne, Elephant and Castle, qui avait interdit le port du hoodie capuche. Donc porté, donc vraiment très bad boy, mais le hoodie, je vous rappelle que c'est quand même un vêtement de sport qui était porté par les athlètes aux Jeux Olympiques de Berlin dans l'entre-deux-guerres. Les premières marques qui se bataillent toutes l'origine du hoodie, c'est Russell Athletic, Foot of the Loom. Je crois qu'il y en a aussi une troisième, le nom m'échappe. Voilà, et ces marques ont toutes imaginé donc cette veste très, très, très molletonné, donc à l'intérieur, et qui est évidemment très agréable à porter après avoir pratiqué un 100 mètres, par exemple. Donc, un vêtement hyper emblématique et qui, aujourd'hui, est porté, je le répète, par tous, version cachemire, chez tant de marques qui vont s'adouber ces vêtements. Un mot également sur le fameux Teddy, hein, qui est un vêtement emblématique de la culture WASP américaine, culture WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestant, hein, donc plutôt les GIs, blonds, grands, baraqués, rien à voir avec les minorités raciales. Et les membres du hip-hop vont s'adouber, vont emprunter ce vêtement comme signe d'appartenance justement à cette élite américaine. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ces vêtements circulent d'une communauté à une autre. Et regardez nos b-boys comme ils sont incroyables avec leurs chaussettes Adidas, les chaussures Adidas, la casquette, la chemisette polo aussi. Hein, donc très sportif, parce que je pense que le breakdance reste avant tout un sport, bien plus qu'une danse. Et puis voilà, ce type de photo, encore une fois, très emblématique de l'attitude bras croisés ou alors donc levé de la victoire. Toujours ces attitudes très droites. Cette attitude de pose aussi devant les photographes, hein, toujours pour véhiculer l'idée qu'on va sortir du ghetto, qu'on va devenir quelqu'un grâce à son talent et grâce à son look, grâce à la façon dont on va le personnaliser. Encore une fois, attitude très, très emblématique. Un mot sur les rappeurs, le style des rappeurs qui, eux, sont les héritiers directs. Vous les connaissez sans doute pas, des Zoot Sweaters. Zoot, c'est une déformation en argot américain du mot suit, S-U-I-T, vous savez, costume. Eh bien, les Zoot Sweaters, c'était les minorités raciales qui refusaient d'être enrôlées dans l'armée pour servir de chair à canon pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils étaient accusés de pas être de bons Américains. Donc, ils portaient des vêtements très amples, des lunettes noires, et les Zoot Sweaters vont complètement inspirer les rappeurs avec eux-mêmes les lunettes noires et les vêtements oversized. Alors on a beaucoup parlé justement des vêtements des prisonniers, hein, le baggy sans ceinture, trop grand parce qu'on n'a qu'une grosse grande taille unique, mais il faut aussi se rappeler que les vêtements trop amples, c'était aussi une forme de contestation. On observe ça à plusieurs reprises dans l'histoire de la mode. On observe même ça chez nos incroyables après la Révolution française, qui portaient des vêtements beaucoup trop grands, qui faisaient plein de plis. Et le vêtement trop grand, ça reste vraiment un signe de contestation dans les différentes cultures du costume occidental. Beats, Rhythms, Somebody Does on a Hat, Run DMC ici en 1984 avec, pour son album Living Large. Donc Living Large qui a deux significations, hein, c'est avoir l'esprit ouvert, mais c'est aussi vivre au-dessus de ses moyens, hein, donc le bon le mauvais côté. Le fameux trilby, la veste en cuir, des vêtements ajustés toujours. On va retrouver donc tous ces codes communs à la sphère hip-hop. Et puis peut-être, vous le connaissez moins, le Bob Kangol, si ? Ouais. Le Bob Kangol. Alors, vous savez que le Bob Kangol, on voulait imiter Bob Marley avec ses dreadlocks, mais quand on n'a pas de dreadlocks, moi, je vous le dis, vous savez ce qu'il faut faire ? Papier journal. Ça marche très, très, très bien. Je n'invente rien, c'est ces gens-là qui le faisaient, pas moi. Moi, je n'ai jamais osé. Mais en tout cas, le Bob Kangol, qui est alors là complètement emblématique de la culture anglaise, britannique. C'est vraiment le gentleman farmer, vous savez, la petite casquette, c'est la marque Kangol. Donc, c'est vraiment des marques emblématiques. On vient vraiment chercher ces signes distinctifs dans la haute société et puis on les personnalise, portés donc ainsi dans la culture street. J'avais déjà parlé du trilby. Regardez cette super photo, ce jeune qui pose à côté de son graphe, tout jeune, avec son cahier, son book. Parce qu'encore une fois, il a l'idée que ce book, ça va peut-être lui servir, peut-être à le présenter dans une galerie. Et certains, pas tous bien sûr, mais Futura 2000 par exemple, vont présenter leurs œuvres dans des galeries. Alors évidemment, ça reste un rêve, mais en tout cas, dans les yeux de chacun, on lit ce rêve, l'idée que voilà, on va peut-être être remarqué, devenir quelqu'un grâce à son talent personnel. Voici, alors ça c'est pareil, c'est des photos tout à fait authentiques. La boombox, vous n'avez pas connu ça la boombox, hein, parce que même la chaîne IFI ça disparaît. Hein, donc on a les enceintes aujourd'hui, juste les petites enceintes Sonos dans les maisons. Mais on va commencer à avoir une nostalgie pour la chaîne IFI. Et puis alors la boombox, moi je vous dis pas, je pleure quand j'y pense, parce qu'on allait sur les quais de Seine quand on avait 17 ans. Et alors on dansait pas le break parce qu'on ne savait pas, mais peut-être sur Michael Jackson ou Madonna à l'époque. En tout cas, l'idée c'était de porter la musique dans la rue. Et pour bien sûr faire ces figures à même le sol, bon, on met des cartons, on est dans une impasse et on fait encore une fois une prestation, une performance avec le fameux Ghetto Blaster, ici le Boombox, autrement nommé. Et cette photo qui peut-être est le résumé de la mode hip-hop, avec donc cette attitude, avec le pas de deux ou trois de danseuse classique, observée au passage, mais que j'adore parce qu'il y a vraiment ce côté très identitaire, ce côté très propre sur soi. On pourrait presque croiser ce document avec un couple de dandys au 19e siècle, une attitude encore une fois très droite, bras croisés. Il n'y a absolument rien de provocateur dans l'attitude hip-hop. Tout se passe au travers de l'expression artistique, mais sinon on pose. Et je le répète, notez ces noms, il existe des ouvrages qu'on trouve sur d'occasion et qui sont des ouvrages passionnants quand on s'intéresse au sujet, qui sont en anglais, mais qu'on trouve encore aujourd'hui, je pense. Et ici, le petit Bob Kangol pour rappeler donc cette appartenance au hip-hop. Alors, voilà pour la mode hip-hop. Très vite, la guerre des gangs, la drogue va arriver par flot entier dès la première moitié des années 80. Donc, qui dit drogue dit également guerre des gangs, et violence. Les rappeurs vont avoir des mots de plus en plus violents. On va commencer à parler de gangsta rap. Certains font bien sûr aussi, malheureusement, du trafic de drogue, deviennent extrêmement riches et ont blanchi l'argent comme on peut. Donc, il y a tous ces signes extérieurs de richesse avec les marques, les griffes, Vuitton, Gucci, qui sont portées bien sûr de manière extrêmement visible. Je le répète, un peu comme des signes extérieurs, un peu beaucoup comme des signes extérieurs de richesse. Et puis tout va être caricaturé. C'est plus une nameplate, c'est plein de chaînes en or, les Dookie Raps. C'est plus oversize, c'est XXXXXL. C'est vraiment une exagération. Et à partir de ce moment-là, les fondateurs du hip-hop, eux, disparaissent. Ils ne se reconnaissent pas dans ces extravagances et dans cette expression beaucoup plus flamboyante du hip-hop. Alors, pour nous résumer, on l'a vu, on l'a compris, le sportswear, c'est quand même une histoire qui naît finalement très tôt, au XXe siècle, qui naît en Europe, dans une sphère beaucoup plus élitiste et britannique. Le streetwear, c'est une histoire américaine qui se passe précisément au tournant des années 80. On l'a vu aux États-Unis, en Californie et dans les rues du Bronx, dans les ghettos new-yorkais. Et puis très rapidement, ces vêtements vont tout simplement arriver en Europe par le biais des breakdancers, par la musique tout simplement, vont être portés aussi par les Japonais. Les Japonais vont être extrêmement accueillants pour le hip-hop, vont devenir eux-mêmes des créateurs de marques, on va en citer certaines, et à tel point qu'on va parler de codes et de modes urbaines. Hein, on va complètement élargir les codes, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette mode urbaine ? Des sneakers, des vêtements de sport, des hoodies, des bas de survêtements, et puis donc tous ces vêtements finalement qu'on a pu lister en long et en large, et qui sont des vêtements avec un dénominateur commun qui est le mot confort. Qu'est-ce qu'on recherche ? Le confort et principalement la maille. Et puis, bien sûr, on va retrouver cette ligne, le casual wear qui va lui-même accueillir donc ces différents vêtements à l'intérieur de marques. Vous avez ici un look de chez Lacoste. Alors, je vous le disais, au cœur de cette histoire, finalement, le dénominateur commun, bon, j'ai choisi peut-être le fameux t-shirt, mais on aurait pu mettre les sneakers, ça reste et demeure cette idée du confort, d'absence totale d'entrave. Le skater, quand il pratique son sport, il n'a pas de ceinture parce que ça lui cisaille le ventre. Hein. Donc, il y a vraiment toujours cette idée d'être en accord avec le sport et la pratique sportive que l'on a. Donc ici, finalement, ce t-shirt, il est en opposition totale avec le fameux costume trois pièces d'homme qui disparaît pas. Hein. On l'a encore, l'homme tronc du journal de 20h. Ouais, il arrive quand même un peu en voie de disparition parce que je pense que la plupart des gens mettent des t-shirts hommes et femmes. Et même si la chemise ne disparaît pas totalement, elle a quand même beaucoup, beaucoup régressé dans les vestiaires. Alors pour terminer cette présentation, je ne sais pas trop où j'en suis en termes d'horaire, ça va. Pour terminer cette présentation, un mot quand même sur l'appropriation. Non, j'exagère, parce que là, c'est peut-être pas de l'appropriation, mais en tout cas, c'est des très belles collabs qui se sont passées avec des marques de luxe. Vous reconnaissez probablement le Grave de Stephen Sprouse, qui a eu deux collaborations avec Louis Vuitton. Alors, quand ces sacs sont sortis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a entendu comme critique et les gens très, très, très bien qui disaient « Comment ça, Louis Vuitton qu'est-ce qu'ils font à taguer leur sac ? C'est épouvantable. » Enfin, il y a quand même eu des tollés un peu unanimes. Et puis, en même temps, voilà, ça s'est passé. Et puis, on a fait pire aussi, je pense, depuis. Mais en tout cas, c'est les premières expressions, finalement, assez peut-être provocatrices. Finalement, les marques, très vite, ont compris que c'était des codes extrêmement puissant d'un point de vue marketing, vous l'avez compris, et qu'il fallait être les premiers finalement à s'approprier, donc à son tour. Donc très très rapidement, les marques ont adoubé, que ce soit effectivement un type d'imprimé, un graphe, ou bien tout simplement les fameuses baskets, pour en faire des modèles aussi emblématiques, griffés par les uns ou par les autres. Alors on pourrait citer les Vans, donc revu et corrigé par Marc Jacobs, avec la fameuse slip-on, enfin le slipper de Marc Jacobs de Vans en édition limitée, ou bien encore, et ça c'est encore plus intéressant, c'est les collaborations entre équipementiers et créateurs de mode, Yohji Yamamoto en particulier, qui va créer la marque Y3, qui aura connu un succès fantastique au Japon, donc en partenariat avec Adidas. Et on retrouve tous les vêtements, mais alors version cachemire, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui va porter ça ? Eh bien, tous les jeunes qui, vous savez, à l'époque, créaient les fameux GAFA, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc, tous les gens qui vont créer ces multinationales et toutes ces entreprises de la Silicon Valley ultra puissantes, ils ne portent pas le costume trois pièces, ils vont porter les hoodies et tous ces vêtements et les baskets, naturellement, en prime. Même sur les tapis rouges aujourd'hui, hein, où que ce soit en Europe, aux États-Unis, on les voit tous en smoking avec des baskets. Hein. Enfin, je veux dire, vous, ça ne vous étonne pas. Moi, j'ai un petit peu de mal encore, mais ça va venir. Mais voilà, il y a vraiment comme ça une invasion. Je pense que la basket, c'est le nouveau jean. Hein, le jean qui, finalement, j'avais entendu une statistique, je me souviens, dans les années 90, on disait que 80% de l'humanité avait un jean. Aujourd'hui, c'est 100%. Je ne vois pas une personne sur Terre qui n'a pas un jean, de luxe ou pas de luxe, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment une omniprésence du jean, mais qui a été supplantée probablement par les baskets. En tout cas, c'est l'héritier du jean. Je vous entends réagir. Je termine juste et je vous laisse la parole, promis. Jeremy Scott, on s'en lasse pas, hein, chez Adidas avec le fameux hoodie Cut P. Ou alors, pour nos joueurs de soccer, de football, pourquoi pas version panthère, il serait joli, nos joueurs de foot du 15 de France, non, en panthère, version panthère, c'est pas mal. Voilà, donc je le répète, hein, tous ces vêtements emblématiques du sportswear sont adoubés par les marques emblématiques. Lacoste va aussi faire son beurre, hein, de tout ça, naturellement, étant une marque aussi tout à fait légitime, hein, et va mixer les codes de la rue et les codes du soir dans cet esprit unconventional chic, hein, donc ce fameux logo mythique au début des années 2000. Et un mot sur le streetwear japonais, je vous demande de ne pas rire, hein, parce que quand même les Japonais ont eu du flair, hein, ils savent véritablement flairer les bonnes tendances. Il faut quand même que je vous présente, alors Nigo, c'est l'assistant d'Hiroshige Fujiwara, pour lequel j'ai pas de photo, qui a donc créé la marque Good Enough. Vous savez, Good Enough, qui était la marque de la Pendleton, enfin de la chemise de bûcheron, qui est une marque qui a été créée dans les années 80, ou au début des années 90, première marque de streetwear japonais. Et Hiroshige Fujiwara a fait fortune avec ça. Il est devenu producteur de rap japonais. Et son bras droit, Tamako Nagao, qui s'est surnommé Nigo, qui veut dire numéro 2 en japonais, va fonder la fameuse marque, et ça je suis sûre que vous connaissez Bape, Bathing Ape, donc fondée en 93 par Nigo, et qui va devenir aussi, avec le motif camouflage, une marque emblématique du streetwear de luxe. Parce que qui rentre dans les boutiques Bape au Japon? Les riches, ouais, carrément. Et alors, comment sont présentés les sneakers? Sympa, serré en randonnion, mais sur des sellettes. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans la boutique Colette. À l'époque, on avait tous les sneakers aussi, pas en randonnion, mais en façon objet star. Donc, un vrai emblème de la culture street. Voilà, une boutique japonaise. Ici, donc, pour terminer cette présentation. Et quand même, pas interdit de rire, le groupe produit par Hiroshige Fujiwara, avec donc les casquettes, le blazer qui revient, hein, l'origine, back to the square one, comme on dit en anglais, retour à la case départ, avec les fameux sneakers, toujours dans cet esprit marque de luxe. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en quelques décennies à peine, notre streetwear, qui est né dans les rues, vraiment, qui est né grâce, je pense, à cette énergie créatrice de fou, a conquis complètement les marchés internationaux du prêt-à-porter, mais pas seulement du prêt-à-porter de luxe. Et ça, c'est quand même incroyable de voir la puissance véritablement de ces vêtements qui n'ont pourtant pas été inventés, hein, qui étaient comme ça à disposition et qui sont devenus, eh bien voilà, des vêtements, des basiques dans nos vestiaires et nos garde-robes. Voilà, on en a terminé avec cette présentation, je crois. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Merci.
Un grand merci pour cet exposé en couleurs. Franchement, vous aurez écouté encore pendant une heure. C'est pas du tout. C'est passionnant, merci. Mais je suis certaine qu'il y aura pas mal de questions. Donc merci pour cette vision historique et puis politique quand même que vous nous donnez, une lecture politique avec ces questions d'appropriation, de rôle du luxe, pas que du luxe, des marques de sport. Ça me fait penser aussi aux collabs en sponsoring désormais qui se développent. Alors que dire? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Qu'est-ce qui vous a parlé dans ces présentations? Peut-être aussi aujourd'hui, la façon dont vous voyez la mode et votre futur rôle de créateur ou de...
Et peut-être aussi, est-ce que vous pensez que c'est, pardon, je vous coupe, mais une parce qu'on finalement la tendance street, elle est omniprésente et finalement elle est devenue presque un peu monolithique et statique. Est-ce que vous pensez qu'on est dedans encore pour un moment? Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça? C'est pas que je veuille m'en débarrasser, alors, hein, des sneakers. Hein.
Et voilà.
Moi, je pense que la mode, elle va forcément évoluer parce qu'on change d'utilité. Vous avez dit les skateurs, vous avez cité plein d'exemples où, en fait, le vêtement s'adapte à notre utilité. Ouais. Et nous, on a vu tout à l'heure avec Pièce Paris, juste avant vous, où il disait qu'il y a de plus en plus de cyclistes et que du coup, ils ont commencé à faire une gamme spéciale pour les cyclistes. Et du coup, on doit y avoir plein d'autres enjeux, mais je pense que forcément, est-ce que ça va. Si la question. Si, je ne sais pas si c'est à peu près.
Si, là, c'est vraiment les marques qui vont pointer peut-être le fait qu'on est de plus en plus à bicyclette, donc on va adapter. Mais la tendance de masse, c'est-à-dire tous ces vêtements qui sont omniprésents, le hoodie, etc., en fait, les Vuitton, tout ça, ils font ça en boucle aujourd'hui. Hein, les Balenciaga, tout ça, ils font quand même du streetwear en boucle. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être pérenne parce que ça répond tout simplement à ce besoin, à cette envie de confort unanime? Et peut-être de vêtements unisexes aussi.
Ouais, je pense que c'est comme la chemise. Enfin, ça fera toujours des temps. Une chemise, on en porte encore. On en portait il y a 100 ans. Je pense que la temporalité d'un vêtement, c'est plus grand que celle d'un être humain. Et donc, du coup, un vêtement qui est arrivé dans les années 50 a sûrement devant lui plus 150 ans qu'une ou deux générations. Voilà, il y a, je pense, 5 générations pour un vêtement. C'est une approximation. Hein, j'en sais rien.
Non, mais je vois ce que vous voulez dire, pas de souci.
Je peux passer le micro?
Oui, bien sûr, allez-y, faites circuler le micro.
Moi, je me rappelle que, par exemple, il y a quelques années, quand je disais que je voulais faire des vêtements de sport et aussi du luxe, on m'a toujours dit, ouais, non, c'est impossible, c'est des univers différents, alors que maintenant, que ça soit Louis Vuitton, Gucci et tout, ils font tous des vêtements de sport, et même, carrément, ils s'approprient grave des vêtements, des ensembles de sport, comme, par exemple... dans les cités, où je parle, genre, ils s'approprient grave nos univers.
C'est ça.
Et les remets, mais en plus cher. Enfin, aussi de l'appropriation maintenant.
Un peu, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques?
Est-ce que vous pourriez vous passer de basket? Non. Globalement, c'est non. Est-ce qu'il y a un oui quand même? Alors. Alors, le micro. Pourquoi? Parce que, la question est oui, mais pourquoi? Le garçon voudrait parler.
Pour des raisons de mode de vie et aussi esthétique, mais c'est... Voilà, et par exemple, contrairement à ce qu'on dit, à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je pense que, pour revenir à ce qu'on disait, les marques de luxe, comme Louis Vuitton, etc., elles surfent sur quelque chose qui a été créé. Donc, en fait, si vous voulez, il y aura d'autres mouvements qui vont être créés. Ça a été au bout d'un moment le rock, après, ce sera... Oui.
Bien sûr, c'est du marketing. Tout à fait.
Mais donc, du coup, forcément, les contre-structures vont changer, vont évoluer. Et donc, forcément, avec le Vuitton, etc., ce que vous avez cité, ils vont aussi évoluer avec.
Mais je pense quand même, pour peut-être vous mettre d'accord et créer une liaison, que c'est pas grâce à Vuitton que ça marche. C'est vraiment parce que déjà, ça a été ultra créatif à l'origine. Dites-vous bien, un vêtement. Ne passe dans la rue, indépendamment de la marque ou du biais ou de couture, ce que vous voulez, que si le plus grand nombre l'adopte. Quand les femmes, on leur a dit « c'est bon, le corset, c'est terminé », elles ont dit « non, mais ça ne va pas la tête, on va pas retirer notre corset, on est grosses ». Parce que les femmes, elles n'avaient jamais fait de sport de leur vie, elles portaient un corset depuis l'âge de 2 ans. Et contrairement à ce qu'on lit dans les histoires de la mode, Chanel, machin, a libéré les femmes du corset, mais on ne les a pas du tout libérées. Elles ne voulaient pas le retirer, leur corset. Mais ça, on ne le sait pas. Encore une fois, ce n'est pas écrit dans les histoires de la mode. Et là, je pense encore une fois que Vuitton, etc., font des baskets parce que les gens veulent porter des baskets. Et après, rajoute toute une tartine de marketing. Mais voilà, c'est une volonté du plus grand nombre. Et c'est ça, c'est l'idée de la durée, hein, alors plusieurs générations. Oui, quelque part, parce que le costume, il continue à être porté, moins, mais il continue à être porté. Donc on peut imaginer effectivement une durée longue du streetwear qui sera peut-être chamboulée par... Alors malheureusement, les grands changements vestimentaires, c'est en général lié à une crise, à une guerre, à une révolution... On n'est pas trop pressé, d'accord? Mais qui dit grand changement vestimentaire dit en général crise politique grave. Donc, on va garder le streetwear encore un
peu. Intéressant. Tu avais une question aussi?
Non, c'était
d'accord, c'est plus bon, éventuellement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je peux vous laisser faire passer.
Mais c'est comme, par exemple, par rapport au streetwear. Avant, bah, c'était ceux qui étaient ici de quartiers défavorisés. Du coup, c'était grave pas cher. Alors que maintenant, quand on voit des Jordan qui, avant, coûtaient moins de 200 euros, qui maintenant coûtent 400, 600, 800, avec les collabs et tout, bah, en vrai, ils respectent plus trop les codes du streetwear à l'ancienne. Et maintenant, c'est grave business.
Mais c'est ça.
Bref,
c'est
moi, ça. Je suis énervée. Non.
Ça s'appelle le système de marque et le marketing. Mais je crois savoir que vous êtes là peut-être parce que vous êtes des futurs créatifs et que vous allez peut-être évolutionner tout ça, non? Parce qu'on compte sur vous aussi pour revenir aux fondamentaux et peut-être à des produits de belle qualité et accessibles en prix. Donc, on peut faire des bilans, et je suis d'accord, je suis la première à les faire, mais on peut aussi changer les choses. Et je pense que vous êtes tous là pour le faire, non?
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a encore du streetwear accessible, justement? Est-ce qu'on a encore des vraies marques de streetwear de sportswear qui ont conservé cet esprit, qui visent à ce que ça reste accessible au plus grand nombre, qui visent à faire en sorte que ça revienne d'où ça vient, c'est-à-dire de la rue?
Ben, certainement, mais en fait, elles sont un peu noyées au milieu de toutes les propositions commerciales qui sont fleuves et surtout noyées par la puissance marketing de ces grandes griffes. Maintenant, oui, des petites marques qui ont une volonté justement de travailler de manière éco-responsable, il y en a, mais il y en a beaucoup. Mais je pense qu'elles n'arrivent pas à être visibles. Et puis, ben, c'est comme tout, ça a un coût aussi d'être éco-responsable.
Bien sûr, et oui, on en a parlé toute la journée. Et de conserver l'esprit street aussi,
c'est ça.
De pas couper
la fraîcheur, la fraîcheur créative, et c'est ça qui est parfois vraiment choquant dans cette histoire, c'est que tout est parti de la rue.
Tout à fait. Ouais. Elle en est coupée aujourd'hui. Enfin,
et ouais, complètement.
Il faudrait rendre à César ce qui appartient à César.
Moi, je voulais.
Qui est devant? Alors, qui a le micro?
Je voulais revenir sur un point, de ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était que, par exemple, les personnes, les grandes marques de luxe et les personnes, par exemple, qui achètent ces choses, le public destiné, c'est que, par exemple, tout ce qui est streetwear, basket, c'est que à la base, avant, c'était super mal vu, et très stéréotypé de porter ce type de vêtements, et que ces mêmes personnes, par exemple, qui sont le public destiné à acheter les grandes marques, etc., c'était que vous savez comment dire, mais que ces mêmes personnes qui achètent par exemple les grandes marques de luxe, etc., c'était les mêmes personnes qui avant jugeaient, on va dire, critiquaient les personnes, par exemple les minorités, leur style vestimentaire, etc.
Mais il y a les premiers qui portent, c'est ceux qui ont l'audace, et ceux qui suivent, c'est les suiveurs. Ils n'ont aucun mérite. Chanel, la première fois qu'elle a enfilé une robe noire, c'était au milieu de femmes qui portaient que des robes rose pâle, vert d'eau, jaune paille. Bref, elles étaient toutes façon meringue. Et Chanel, elle arrive en robe noire. Et on l'accuse d'être en deuil, on l'accuse de luxe pauvre, on se moque d'elle. Et qui aura eu raison? Chanel. Donc, les tout premiers qui font, c'est ceux qui ont l'audace et le courage. Et dans notre histoire, oui, ce sont les jeunes qui ont utilisé une manière spécifique et très customisée de s'habiller, en piochant justement dans les vêtements de sport, pour dire « voilà qui nous sommes, voilà notre identité ». Mais après, ceux qui empruntent, c'est aussi une façon de s'encanailler, c'est aussi une façon de copier, finalement, pour avoir s'accréditer d'un côté un petit peu plus canaille, provoque. Mais ce ne sont pas les créatifs, ce ne sont pas les créateurs finalement de ces tendances-là. Donc c'est plus facile, oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a plus de suiveurs d'une manière générale que de gens authentiques. C'est un peu le mécanisme des tendances.
Par là, le micro, juste à côté.
Donc moi, c'est pas vraiment une question, c'est surtout un avis par rapport à ça. C'est que par rapport aux grandes marques qui sont portées pour du soi-disant streetwear, à la base c'est ça, parce que c'est l'identité, on va dire, de ces marques-là sont l'identité du streetwear quelque part. Mais à aucun moment on est obligé de porter des grandes marques qui coûtent des prix exorbitants pour avoir un style streetwear. C'est juste que aussi avec la société de consommation, les gens, ils se sentent un peu obligés, mais enfin, je pense que pour avoir un style streetwear, on n'est pas obligé de porter des vêtements qui coûtent 200, 400 euros. C'est juste aussi avoir sa propre identité et pas à suivre pour avoir de la marque.
Bien sûr, mais les jeunes, regardez, enfin, dans les lycées, hein, il faut avoir les Stan Smith, on demande aux parents d'avoir tel... Je pense que beaucoup parmi vous avez demandé à vos parents à un moment donné une certaine marque de basket parce que le plus grand nombre avait la marque de basket à l'école. Et c'est un mécanisme sur lequel les marques s'appuient, c'est-à-dire tout simplement le désir d'avoir. Et évidemment, le prix devient énorme alors que la matière première, même la façon n'aura pas requis un prix aussi élevé.
C'est vrai, je pense que...
Vous demandez quelques minutes d'attention encore, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'entendre.
Je pense qu'on est tous passés par là, par demander à papa ou maman d'acheter cette marque-là parce que quelqu'un d'autre l'avait, ou ceci et cela. Mais je pense qu'en grandissant, on comprend aussi certaines choses qui montrent qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes choses que tout le monde. Et avoir sa propre identité, c'est bien aussi.
Ah, complètement.
Mais c'est après, ce que nous enseigne ces jeunes. C'est dommage.
C'est-à-dire qu'en fait, on porte tous à peu près les mêmes vêtements, achetés à peu près chez les mêmes marques. Le tout, c'est de savoir personnaliser son allure. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, est enseigné normalement par les créateurs de mode et les couturiers, enfin, les acteurs de la mode, plus largement parlant, ce qui n'est plus très vrai aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat.
Et c'est aussi l'objet du triathlon de la mode éthique qui vous pousse à créer, enfin, qui vous propose de créer vos propres pièces. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions ?
Moi, je voulais juste dire que je pense que le Covid a vraiment entraîné la mode du confort au niveau des adultes, parce que au niveau des jeunes, bon, c'était déjà présent, mais les adultes, ils ont vraiment dû rester chez eux.
C'est
donc,
vrai.
Du coup, ils sont tous sortis en pyjama, entre guillemets. Enfin, non, mais
c'est-à-dire la chemise et puis après le bas, c'était en visio.
Du coup, je pense que de nos jours, le streetwear, il touche même plus. Enfin, la mode confortable, elle touche même plus que les jeunes qui veulent être au confort. Après, ça touchait déjà pas que cette population, mais voilà.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai rien à dire. Ouais.
C'est sûr.
J'ai pas
inventé quelque chose. Vous avez encore quelques minutes si vous avez encore un peu de courage pour profiter de Guénolé Miret. Est-ce qu'il reste des commentaires, des questions ?
Justement, par rapport à ces vêtements qui sont aujourd'hui complètement plébiscités, avec lesquels on paraît toujours à propos, parce que c'est ça aussi l'audace, c'est d'arriver, qui aujourd'hui a envie d'arriver dans une rame de métro habillée d'une manière différente. Évidemment, il va attirer les regards et personne n'a envie d'attirer les regards dans une période qui est soumise à l'insécurité, à plein de choses, et en plus avec le Covid maintenant. Donc, c'est vrai que depuis les attentats à Paris, je pense qu'on observe de moins en moins de flamboyance, de moins en moins de looks repérables. Ainsi qu'on a pu le voir à Tokyo dans les années 90 ou même à Londres dans les années 80, qui étaient des années ultra créatives dans la rue. Aujourd'hui, la rue, elle est grise. Enfin, je veux dire, elle est dominée quand même par des couleurs. Il y a de la couleur, bien sûr, mais il n'y a pas véritablement de look qui se détache. Et c'est pourtant là que la mode se crée aussi, c'est avoir l'audace, finalement, d'apparaître différent. Et c'est peut-être le questionnement que vous pourriez mener, vous dire, si je ne portais pas de basket, quelles seraient les chaussures que je pourrais porter aujourd'hui pour un petit peu rompre avec ça et peut-être être différent, ou alors les porter mais de manière différente, parce que remarquez maintenant on les porte en toutes circonstances avec une jupe ou mais c'est peut-être aussi de voir comment vous pouvez détourner ces vêtements et finalement les porter différemment ou pas. Et si vous les portiez pas, qu'est-ce que vous porteriez à la place?
Une toute petite minute s'il vous plaît, parce qu'on s'entend, on n'entend pas beaucoup ici.
En sécurité, ouais. C'est vrai, ouais. 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 C'est ça. Moi, si vous voulez, la seule chose qui me gêne, Je pense que c'est des vêtements ultra puissants et qui ont effectivement une durée de vie encore longue devant eux, certainement. C'est se dire, il faudrait quand même qu'il y ait un questionnement autour du fait. Vous savez, c'est comme vous avez porté du bleu marine parce que vous alliez dans une école catho dans votre enfance, alors vous êtes obligé d'aimer le bleu marine, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des stéréotypes qui naissent de nos modes de vie, de nos milieux familiaux, de nos milieux, nos régions, nos cultures, etc. Et ce qui est bien, c'est de rompre aussi, si on a envie, bien sûr, et se questionner de pourquoi j'aime mes baskets. Et finalement, si j'en portais pas, parce que ça serait peut-être bien aussi de pas en porter. Et de faire les choses en conscience, et pas en mode suiveur. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui est intéressant à mener comme réflexion. Encore une fois, il ne s'agit pas de changer de garde-robe du jour au lendemain, complètement, mais c'est de se dire bah, finalement, aujourd'hui j'ai envie d'être qui si je me pose pas de questions, j'enfile un pull, un jean et des baskets et zou, la journée démarre. Mais est-ce que vous démarrez votre journée en disant aujourd'hui je serai conquérante? Non, aujourd'hui je serai plutôt séductrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire être acteur de son look, et ça prend pas beaucoup de temps le matin de réfléchir un petit peu au mood dans lequel on a envie de s'inscrire. Ou plutôt passe-partout, auquel cas, oui, d'accord, j'enfile un hoodie ou un vêtement XXL, voyez. Mais ça, c'est aussi intéressant d'envisager l'idée d'être acteur de son look.
Et avoir les échanges, les looks et les questions que vous avez posées, l'attention que vous avez eue, je pense que vous faites partie de... Enfin, des jeunes qui sont tout à fait dans ce type de démarche aujourd'hui.
Discuter avec vos parents, vos grands-parents, parler vêtements. Il y a une culture orale qui se perd. Demandez à vos grands-mères comment elle appelait ses maillots de bain, les costumes de bain. Enfin, moi, c'était la mienne. Donc, peut-être pas les vôtres, c'est sûr. Mais tout ce vocabulaire, les souliers, le chandail, ces mots désuets qui vous font marrer quand ce sont les anciens qui les prononcent. Mais discutez. Dites à votre grand-mère, elle était comment ta robe de mariée Pensez à cette culture aussi. Il n'y a pas que les cours d'histoire de la mode dans les écoles. Il faut vraiment aussi s'interroger. Et puis, donner un avis sur le look de votre mère et réciproquement, elle peut en donner. Moi, je discute beaucoup. Bon, je suis un peu née là-dedans, comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Mais ma fille, sans arrêt, elle n'est pas du tout dans la mode. Elle est étudiante en info. Mais voilà, on a toujours un regard croisé sur nos looks. Et ce dialogue-là, en famille... votre père qui va peut-être encore mettre un costume pour aller au boulot. Mais Didi, papa, ça te plaît de porter un costume ou pas? Est-ce que vous connaissez la réponse? Je suis sûre que vous ne la connaissez pas, la réponse. Il en a peut-être une réponse à vous donner. Donc, tous ces dialogues à avoir avec la famille, c'est super important.
J'ai entendu le duffelcoat aussi par là. Duffelcoat. Ce sera la dernière. Est-ce qu'il y a une autre question après ou une autre intervention après celle-ci? Ok, donc encore quelques petites minutes d'attention.
Moi, je voulais juste répondre à votre question par rapport aux vêtements streetwear, mais pas chers. Et moi, en fait, je m'habille de manière streetwear, mais pas chère, en allant tout simplement dans des friperies ou des recycleries. Emmaüs, par exemple, et pas Mad Vintage en plein cœur de Paris à 30€ le vêtement. Du coup, je pense que de nos jours, en fait, l'avenir des vêtements, c'est plus les friperies ou les recycleries.
Le second main.
Ou sinon, les marques de vêtements qui utilisent des vêtements de seconde main, en fait. Pour moi, c'est ça l'avenir de la mode.
Oui, déjà, quand on dit le nombre de vêtements qui sont fabriqués par an, au niveau mondial, il y a un tout petit problème, hein, parce qu'il y a un petit peu trop de vêtements pour le nombre d'humains qu'on est sur Terre. Ça, donc le second hand, oui, je pense que c'est un bon plan pour la planète.
Une dernière réaction là, et une derrière aussi. Allez, deux mini réactions. Le micro arrive.
Ah, merci. C'était juste pour rebondir un peu sur le boom des fripes, parce que le souci, c'est qu'on est en train de se rendre compte aussi que les gens, comme c'est pas cher, ils se disent c'est de la seconde main, en fait, ils achètent en masse comme ils font avec la fast fashion. Mm-hmm. Et donc, en fait, il y a un peu l'effet inverse qui est en train de se faire, et les gens vont en fripe comme ils vont faire des courses. Tous les 2-3 jours, des fois, on va en fripe, j'ai ramené ci, j'ai ramené ça, mais en fait, la garde-robe, elle se remplit. Et au final, on porte le vêtement 2-3 fois, comme la fast fashion, et après, on le redonne ou revend, et c'est pas forcément ce qui est le meilleur à faire, même si je suis la première à aller en fripe, mais depuis longtemps. Mais voilà, c'était juste une petite remarque comme ça.
Mais Il y a une rédactrice en chef du magazine Vogue qui s'appelle Bettina Ballard. Elle a vécu, enfin, elle a travaillé dans les années 30 et les années 40. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle In My Fashion, dont je vous recommande la lecture. Et dans ce bouquin, elle fait la comparaison entre les vêtements et l'électricité. Et elle dit, quand on a commencé à avoir l'électricité chez soi, on appuyait sur un bouton, c'était la lumière, c'était juste le grand luxe, quoi. Aujourd'hui, l'électricité, c'est plus du tout un luxe. Et les vêtements, c'est pareil. À partir du moment où on a eu le prêt-à-porter, et les vêtements, vous vous rendez compte, on allait dans un magasin, on ressortait avec la robe. Après l'avoir acheté tout de suite comme ça, on n'avait pas 3 mois d'attente, l'essayage, 2 essayages, etc., etc. Et si bien que avoir plein de vêtements, c'est devenu normal, et les jeter dans la machine à laver linge, c'est devenu normal. Ce qu'il faut qu'on repense, c'est qu'un vêtement, c'est aussi précieux que l'électricité et que la lumière. Et nos porte-monnaies, ils en savent quelque chose aujourd'hui, hein, l'énergie, le prix de l'énergie, ça devient très précieux, l'énergie. Donc on commence aussi, finalement, à réfléchir aussi sur que le vieux jean que vous traînez depuis 15 ans, pour peu que vous n'ayez pas pris de poids ou pas perdu de poids, je ne sais pas, mais en tout cas, gardez la même morphologie, qui a été gratté par le petit chat qui a 15 ans maintenant et que vous ne voulez surtout pas acheter, il est précieux. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé d'âme. Et nos objets, si on les charge d'âme, d'emblée, voilà. Donc, à quoi bon avoir effectivement autant de vêtements dans une garde-robe ? À Paris, on a de la chance parce que vu qu'on a des petits espaces, déjà, la question se pose un petit peu moins. Mais c'est vrai que tout simplement établir une liste de si j'ai tant de vêtements, tant de petites culottes, tant de ci, tant de ça, est-ce que ça devrait le faire ? Ouais. Et s'y tenir. Et ça, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle tout simplement une discipline s'adapter à soi-même et puis se dire, là, j'ai tant de pulls, j'ai peut-être pas besoin d'un autre. On oublie l'achat ou on va switcher l'achat sur autre chose qui serait un petit peu plus... Et c'est exactement comme on va éteindre la pièce, l'électricité d'une pièce dans laquelle on n'est pas. C'est un peu la même chose. Alors, c'est plus naturel pour nous d'éteindre une pièce dans laquelle on ne se trouve pas, mais on devrait pouvoir aussi commencer à raisonner, je pense, je ne veux pas être moralisatrice, mais aussi sur la quantité de vêtements qu'on a par rapport à sa petite personne, à soi et l'activité qu'on a, de se dire, finalement, cette xième paire de baskets, so what ? Vous voyez ?
Il y avait une toute, toute dernière intervention. Alors, il faut faire remonter le micro jusqu'à...
Non, mais juste pour rapidement revenir sur la seconde main, c'est vrai que aussi c'est un truc qui est pas viable parce qu'on est sur un réservoir de vêtements qui date des années 90, peut-être 80, même 70 des fois. Et en fait, c'est des vêtements de bonne manufacture. Et aujourd'hui, dans 30 ans, on aura le réservoir des vêtements d'aujourd'hui qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais nul à chier. Et du coup, c'est pas viable. Et c'est vrai que ce serait bien de revenir sur un truc où son vêtement, c'est son vêtement, on le fait pour soi. Et ce serait peut-être ça le plus viable en fait dans le futur, plutôt que
la qualité, ça dure, oui. Et la qualité, elle n'est pas nécessairement chère. Si elle n'est pas encore une fois griffée, on peut trouver, j'imagine, des filles. Et puis prendre soin aussi, tout simplement, prendre soin de ses vêtements au même titre qu'on prend soin. De faire durer, ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que s'attacher à ses vêtements, à n'importe quel âge, on l'est. Donc c'est bien un mécanisme aussi à développer. Le trop, bien sûr. Ouais. C'est ça. Retrouver le caractère précieux sans nécessairement vouloir dire cher. Mais affectivement précieux.
Un grand merci, Guénol et Mireille. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions vraiment intéressantes. On était ravis de vous. Vous avez vraiment enrichi ces débats et cette journée.